France Inter. .fr. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Venise et sa noblesse.
Vous êtes à Venise, dans la seule ville du monde où la richesse soit assez insolente pour mettre des feuilles d'or sur les façades. Et un mur couvert d'or, c'est un double mur, Lorenzo, et qui ne laisse rien passer, surtout pas les pauvres.
Au peuple de Venise, mais la noblesse pouvait être pauvre, était prodiguée des fêtes qui lui faisaient oublier ses quelques révoltes passées. Aux simples citoyens étaient offertes quelques marges de manœuvre, mais c'était la classe active des grands marchands qui se voyait réserver l'usage du pouvoir dans la ville très noble. De république communale, Venise était devenue sérénissime et les mêmes grandes familles continuaient à se distribuer les responsabilités. Le commerce de maritime pouvait devenir de plus en plus terrestre, son périmètre se restreindre, l'industrie et l'agriculture pouvaient peu à peu le supplanter, mais les mêmes équilibres politiques demeuraient, ardemment défendu par de grandes familles qui n'imaginaient pas de meilleur système que celui de la subtile sérénissime. Au sommet, du moins en apparence, se tenait le doge. Et en cette période de l'ascension que nous vivons, à la proue du Bucentaure, il célébrait ses noces avec la mère. Prince par sa majesté, il était dans la réalité le premier des fonctionnaires d'une république qui enserrait tous les Vénitiens dans un filet de sécurité qui finit par se rompre, mais seulement en 1797. Paraît, à l'occasion de l'Ascension, un numéro de Géo-Histoire consacré à Venise, où Jean-Claude Hoquet, bonjour.
Bonjour.
Vous apparaissez de suite en majesté. Dès le premier article, il est vrai que vous êtes depuis longtemps un citoyen de Venise qui en connaît tous les détours et les dédales.
Un citoyen d'honneur.
Citoyen d'honneur qui travaille beaucoup aux archives. Alors, on se souvient de Pierre Chaunu, notre grand maître à tous, qui travaillait enfermé avec sa femme dans les archives de Séville. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, aux archives de Venise ?
Aux archives de Venise, on trouve la masse des documents publics, c'est-à-dire des documents qui ont été écrits par la chancellerie qui siégeait au palais ducal et qui retranscrivait toutes les délibérations des différents conseils, Grand Conseil, Sénat, Conseil des Dix, Collège, etc. On y trouve également les archives de la noblesse, car les biens des orphelins ou des veuves étaient administrés par une magistrature particulière qu'on appelait les procurateurs de Saint-Marc. On a gardé intégralement leurs archives et le mode de gestion de ces patrimoines nobles, uniquement nobles. On y trouve aussi les archives des notaires. Et grâce à Napoléon, mais je ne sais pas si s'agissant de Venise, on peut parler de grâce à Napoléon, car il a été le bourreau de Venise, Bonaparte d'abord, Napoléon ensuite. Napoléon, l'empereur, roi d'Italie, a dissous toutes les congrégations monastiques et il a fait entreposer leurs archives, qui étaient très bien tenues, dans l'archivio di Stato, les archives d'État de Venise. Et ces archives, donc, sont complétées par les archives notariales de tous les notaires.
Voilà,
qui
parce qu'il y a les contrats privés, les testaments.
Ont officié à Venise.
Juste une précision, puisqu'on a choisi aujourd'hui de parler de la noblesse. Noblesse, c'est le mot qu'on utilisait au Moyen-Âge. Plus tard, on a parlé de patricien.
Alors, le mot noblesse apparaît au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on qualifie les riches marchands de nobles hommes, à condition qu'ils soient nobles. La noblesse apparaît tardivement à Venise. Elle apparaît à partir de 1297, d'un épisode curieux et sur lequel on a longtemps commis un contresens. On a parlé de fermeture du Grand Conseil, et en italien, c'est la serrata.
On en parlera tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que vous permettez qu'on fasse comme vous le faites dans le premier article du numéro de Géo-Histoire, qu'on revienne au départ, au temps des réfugiés qui, de la terre ferme, l'histoire classique parle des grandes invasions et de ses conséquences, oui. Rejoignaient les îles de la lagune, parce que c'est un peu de terre, beaucoup de mer et davantage encore de mélancolie. La lagune, reportage de Maurice Olivari, première chaîne de télévision, 1994.
Ça, c'est la Venise que l'on connaît. L'autre, à vendre, on devrait presque dire à brader, ne se visite pas. Un chapelet d'îlots, autrefois prestigieux, laissé à l'abandon par un État qui a d'autres chats à fouetter. voici en enfilade quelques-uns des bijoux de famille aux enchères.
Devant le manque d'argent et surtout de volonté de la part de l'État, il vaut mieux que les capitaux privés fassent revivre ces îles. C'est le seul moyen dont on dispose pour sauver ce patrimoine.
En fait, il ne s'agit pas de vente, mais de concession. Moyennant finance, jusqu'à 3 millions de francs pour la plus grande et la plus prestigieuse que voici, chacun peut s'offrir pour 90 ans la jouissance de ce joyau. Pas question d'acquérir pour laisser en l'état, le cahier des charges impose la restauration, c'est la moindre des choses.
Nous avons des acquéreurs italiens, mais aussi japonais, allemands, français, suisses.
Autrement dit, je vous reçois sur mon île vénitienne deviendra bientôt le carton d'invitation le plus prestigieux qui soit.
Et c'est comme ça qu'Accor s'est retrouvé propriétaire de San Clemente. Mais ce n'est pas notre sujet, on parle de la noblesse. Et avant la noblesse, les familles pionnières, alors ces réfugiés qui vont faire en sorte de ne pas retourner à la terre ferme, on est là au 7e, 8e siècle, un peu avant même parfois, ils vont choisir non pas de s'établir dans des îles, ils vont construire les îles.
Oui, il faut les construire, ces îles. Ces gens fuient le dernier envahisseur, le germanique, les Lombards, et ils se réfugient avec l'évêque, avec le curé, dans un endroit qui est, disons, inviolable, qui est la lagune de Venise, qu'ils ont protégée du côté de la mer par un lido, c'est-à-dire un cordon littoral. Et ils vont se réfugier dans des îles qui ont des noms célèbres et qu'on n'a pas oublié, par exemple Torcello. Et sur le Lido, il y a Malamocco. Mais même ces Lydies sont menacés par des envahisseurs, notamment les Francs. Le fils de Charlemagne passe sur les Lydies et réussit à s'approcher de Malamocco. Et à ce moment-là, il se réfugie à l'intérieur même de la lagune dans des îles qu'il faudra construire. Et ce sera le cas de l'archipel Réaltin, c'est-à-dire l'archipel de Rialto.
Parce que vous parlez de Torcello, peu à peu, les déplacements ont fait que les habitants ont choisi plutôt de s'installer autour du Rialto, dans les îles Réaltines.
Il y a des glissements, en effet, mais Torcello, qui avait une bonne douzaine d'églises et de monastères durant le Moyen-Âge, a vu ses activités péricliter. Aujourd'hui, il reste deux églises et quelques maisons, un hôtel. Et sinon, les gens se sont réfugiés, attirés par Venise et son activité.
80%, estimez-vous, dans GIO Histoire, de bâtiments, de terres gagnées sur la mer. Ça, c'est le site, comme dit la géographie classique. Pas facile, le site. Et la situation, elle est favorable. Notre maître à tous, Brodel, disait qu'elle bénéficiait de la complicité de deux grandes routes d'échange où les familles pionnières, toujours elles, vont déployer leur commerce.
Mais si vous regardez une carte de la Méditerranée, vous vous apercevez que Venise occupe le fond du golfe le plus profond de la Méditerranée, la mer Adriatique. Venise occupe une situation à l'intérieur même du continent européen. Et cette position est favorable parce que elle est en bordure des deux grands fleuves de l'Italie, qui sont le Pô et la Dige. Et la Dige, lui, conduit au col le plus bas de toutes les Alpes, au Brenner. Et c'est donc une voie commerciale qui sera empruntée immédiatement par les marchands allemands, qui afflueront à Venise, et Venise leur installera une hôtellerie entrepôt qui existe toujours, c'est la poste centrale de Venise, mais au Moyen-Âge, on l'appelait le Fondaco dei Tedeschi.
La voie adriatique, elle mène tout droit sur le domaine de l'Empire d'Orient.
C'est une voie très longue, elle fait près de 1000 km. Elle conduit à la Méditerranée et par conséquent aux empires qui dominaient la Méditerranée orientale, l'Empire byzantin au nord, centré sur Constantinople, Istanbul, et les différents empires musulmans à l'est ou au sud, sur le Caire, Bagdad et Damas.
Puisque vous parlez des empires musulmans, il faut qu'on évoque un événement capital qui va permettre d'affirmer la présence de Venise dans le domaine de l'Empire d'Orient, c'est la quatrième croisade de 1204. Je citais Fernand Braudel, le voici maintenant in vivo.
Les circonstances devront l'aider. Les circonstances, avant tout, l'énorme circonstance des croisades. Enfin, ces gens qui descendent du nord, qui viennent avec de l'argent, avec leurs chevaux, leurs armes, leur enthousiasme, et qui sont transportés par tous les bateaux d'Italie et par les bateaux vénitiens. la quatrième croisade dont Venise organise le transport et qui aboutit au sac de Constantinople, une des horreurs de l'histoire du monde. Mais Venise en tire des profits. Elle avait jusque-là exploité, parasité l'Empire byzantin du dedans comme des termites qui grignotent le bois d'une maison. Dorénavant, elle est dans le monde du Levant, dans l'espace byzantin, elle est chez elle.
Alors Constantinople se relèvera à demi, notamment dans la seconde moitié du XIIIe siècle, mais enfin, il n'empêche, la formule de Braudel est juste. L'espace byzantin est ouvert jusqu'à la mer Noire pour les familles de Venise.
C'est ça l'originalité, c'est ça le résultat de la croisade, effectivement. Et les Italiens, les Vénitiens, mais aussi les Génois, qui vont aider au rétablissement de l'Empire byzantin contre les Vénitiens, vont créer des comptoirs en mer Noire. Et ces comptoirs vont servir de terminaux des routes caravanières qui traversent toute l'Asie et qui apportent les produits de l'Extrême-Orient asiatique.
Que font les nobles dans cette zone ?
Eh bien, les nobles vénitiens, qui sont des officiers de marine, se conquièrent des fiefs. Ce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir à Venise, qui d'ailleurs n'a pas de terre, eh bien, ils l'obtiennent dans les îles de la mer Égée, c'est-à-dire dans les îles de ce qu'on appelle la Romanie, le pays des Romains, c'est l'Empire grec, c'est l'Empire byzantin. Et là, ils deviennent des seigneurs. Il y a des ducs de Naxos, un duc de Crète, c'est la famille Tiepolo qui crée le duché de Crète après conquête de l'île par cette famille, avec l'aide de mercenaires francs. Francs, c'est-à-dire d'Occident.
Parce que de ces terres, on attend le blé, le vin, l'huile, le miel, beaucoup de ressources.
On attend surtout, je crois, à la fois des points d'appui maritimes pour la navigation, car les Vénitiens sont d'abord des navigateurs. Ce sont des gens qui pratiquent le commerce maritime. Il leur faut des points d'appui, des escales, des points où renouveler la provision d'eau douce.
Qu'est-ce que c'est un palais d'un noble vénitien ? Jusqu'en 1410, le rez-de-chaussée est occupé par un entrepôt où arrivent toutes ces provisions par la porte d'eau, tandis qu'il y a de l'autre côté une porte de terre.
Oui, le rez-de-chaussée sert à stocker les marchandises qui constituent les cargaisons des navires de retour d'Orient et qui sont destinés à être vendus sur les marchés occidentaux. Donc les nobles enferment cela dans des resserres au rez-de-chaussée. Et ils habitent à l'étage. Et les palais vénitiens sont des palais, je dirais, qui ont un plan uniforme. Il y a un long salon traversant de part en part, c'est-à-dire du canal jusqu'à la calée, à l'arrière, la voie de terre.
Nous avons aussi nos archives radiophoniques. Je vais vous en faire découvrir une. Elle est même télévisuelle. C'est un téléfilm de Gérard Herzog. Ça se passe en 1471. Un autre événement capital s'est produit qui n'a pas tout de suite pour Venise modifié les équilibres. C'est la chute de Constantinople. Et à l'époque, Chypre n'appartient pas encore à Venise. Nous sommes dans le palais de Katrina. Katrina, c'est Emmanuel Riva. Elle appartient à une famille qui n'est plus ce qu'elle était, Jean-Claude Hoquet.
Il était brillant, ce bal ?
Très brillant. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, Katerina était très entourée.
Très entourée, une fille ruinée. On va changer Venise.
Elle a même eu le danseur le plus en vue du bal.
Qui ? Francesco Venier ?
Bien mieux.
Il n'y a pas mieux à Venise que Francesco.
Il y a celui en l'honneur de qui le bal a été donné ?
Le roi de Chypre ?
Exactement.
Tu n'es pas fatiguée ?
Non.
Tu n'as manqué aucune danse, pourtant ?
Je ne fatigue pas de danser.
Même avec un roi ?
Surtout pas avec un roi. C'était merveilleux. Je me sentais portée par les regards, par les fureurs, les jalousies. Et après, trois sénateurs successivement sont venus me demander ce qu'ils m'avaient dit. J'étais devenue quelqu'un de très important.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?
Oh, rien de particulier. Si j'en juge par celui-ci, les rois n'ont pas une conversation très étonnante. Que j'étais belle, que Venise était belle, que le bal était beau. Tout était beau pour lui.
Ça t'a fait plaisir ?
C'est mon premier bal depuis longtemps. Il fallait une fête comme celle-là, officielle, chez le doge. Je suppose qu'au palais, on invite d'après de très vieilles listes où la famille figure encore.
Jadis, c'est ici que se donnaient des fêtes.
Oui, je sais. Un jour, nous aurons un bal, nous aussi. Un grand bal. Où nous oublierons d'inviter ces filles d'armateurs. De la chambre de mon frère à la mienne, nous avons compté, il y a 72 pas. 72 pas de salle, de couloirs, d'escaliers, de portraits d'ancêtres, de toiles d'araignées. De dalles qui ne tiennent plus. Quand je me réveille, je me sens comme dans un théâtre abandonné.
Bon, je sais, vous allez pinailler Jean-Claude Hoquet, dire que Katerina n'appartient peut-être pas à une famille ruinée.
Absolument pas. C'est une des familles les plus riches. C'est même la famille la plus considérable de Venise. C'est la famille Corner. Bon. En vénitien, Cornaro.
Enfin, permettez quand même qu'on dise que si ce n'est pas le cas de cette famille-là, c'est le cas d'autres, on peut être noble et pauvre.
On n'est pas nécessairement noble et riche, car la noblesse s'acquiert uniquement, non pas par la fortune, mais par la naissance.
Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces anciennes listes dont il était question ici? Vous parliez de la serrata, de la fermeture tout à l'heure du livre de la noblesse.
C'est une remarque très juste que fait Emmanuel Riva.
Merci pour elle.
Il faut enregistrer, les nobles font enregistrer leurs enfants s'ils veulent que ces enfants gardent leur noblesse. Ils les font enregistrer par une magistrature qu'on appelle les avocats de la commune, qui sont en fait des procureurs généraux, mais qui enregistrent toutes les naissances nobles, et qui, à l'âge de 25 ans, constatant la noblesse de ces enfants devenus adultes, eh bien, les autorise à entrer au Grand Conseil. Et le Grand Conseil, c'est l'organe souverain de toute la noblesse et de tout l'État vénitien.
Alors, il est temps de voir comment s'organise le pouvoir de l'aristocratie à Venise.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Avec Jean-Claude Hoquet au sommet de la sédimentation du pouvoir, le doge, la sédimentation, est peut-être aussi complexe que celle que vous décriviez tout à l'heure et qui a présidé à la construction de la ville. Alors le doge, tendez bien l'oreille parce que celui-ci est un peu particulier.
Moi quand je me déguise, moi que suis connu, ce qui fait que dans Venise, je suis pas le premier venu. Qu'on se le dise, qu'on se le dise, je suis le plus beau des doges de Venise. Qu'on se le dise, je suis le plus beau des doges du Lido. Je me tourne un peu là parce qu'il y a du monde aussi. Hein. Toutes les femmes de Venise me trouvent très jolie. Elles pourront faire des bêtises, je suis ravi au lit. Qu'on se le dise, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ravi au lit. Mon gosse dit des bêtises, il a pourtant 10 ans. Quand c'est noir, faut qu'il dise, le petit dit blanc. Faut se le dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le petit dit blanc.
Voilà, c'est par la piste du bal des petits lits blancs, ici donné en 1934, en plein fascisme, à Venise, que notre équipe d'archivistes, parce qu'on en a nous aussi,
oui.
Franck Olivard, Camille Poux-Jalaguier, a retrouvé cette interprétation un peu spéciale de la fonction de doge par Dranem. Qu'est-ce que c'est un doge?
Si un doge s'était comporté comme cela, il aurait été immédiatement destitué par la noblesse, car il aurait porté atteinte à l'honneur de Venise.
Il faut faire attention, parce que la noblesse ne tolère pas les infractions des doges. Et le doge doit se comporter majestueusement. Par exemple, ce jour, Géo-Histoire sort son numéro sur Venise au moment de l'ascension. L'ascension, c'est la sortie du Bucentaure, la proue du Bucentaure, le doge. Qui se marie avec la mer.
Voilà, et qui va jeter un anneau dans la mer Adriatique par la passe de Saint-Nicolas. Mais le doge, c'est l'héritier du duc, et le duc, c'était une sorte de fonctionnaire byzantin, au temps où Ravenne et Venise étaient byzantines, c'est-à-dire pratiquement avant l'invasion des Lombards. Mais ce duc, qui était à l'époque un personnage puissant et qui a essayé de créer une succession dynastique en confiant le titre à ses enfants, eh bien, il a cédé la place ensuite au temps de la Commune. Et la Commune apparaît au milieu du XIIe siècle à un personnage élu par ses pairs, c'est-à-dire par les autres nobles.
Mais on reste doge jusqu'à la fin de ses jours quand même.
C'est la seule magistrature, avec celle des procurateurs de Saint-Marc, qui est viagère, c'est-à-dire qu'on est doge pour le restant de ses jours. En général, on choisit un homme d'expérience, donc déjà âgé. Et Dandolo, le conquérant de Constantinople en 1204, passe pour avoir été un doge aveugle.
Et il est ligoté aussi, le doge. Vous citiez un certain nombre de conseils. Conseil, le conseil des 10, il y a aussi le Sénat.
Le doge gouverne avec un petit conseil de 6 membres, car il y a 6 quartiers à Venise et la noblesse de chaque quartier délègue un de ses représentants auprès du doge pour former le petit conseil. Et avec ce petit conseil de 6 membres, il y a aussi les 3 juges d'un tribunal suprême qu'on appelle le conseil des 40. et ce sont eux qui constituent la seigneurie. Et le doge gouverne avec la seigneurie, il ne gouverne pas seul.
Ouais, on n'a pas rendu compte de la totalité, de la complexité du système. Au fond, le système est volontairement rendu illisible pour qu'il n'y ait pas de tyrannie d'un seul et qu'il n'y ait pas non plus de participation de ceux qui ne peuvent le comprendre et qui n'y ont pas accès, parce qu'ils ne sont pas dans le grand livre.
La grande crainte de la noblesse, c'est que le doge s'allie avec le peuple et constitue ce qui est d'ailleurs monnaie courante dans les autres villes italiennes de la fin du Moyen-Âge, une seigneurie personnelle. Et cela, la noblesse n'en veut pas. Elle n'hésitera pas à faire couper la tête d'un doge qu'elle soupçonnait de vouloir installer cette seigneurie qu'elle appelle une tyrannie.
Alors, dans la galerie des portraits du palais ducal, vous préférez l'expression de palais ducal, il y a un voile noir qui recouvre la figure d'un doge parjure.
Marine Falière. Ouais. Au XIVe siècle.
Les Turcs vont peu à peu resserrer leur étau sur la Méditerranée orientale. En Méditerranée occidentale, la puissance des Espagnols croît. Au nord, c'est celle d'Amsterdam qui déplace le centre de gravité. Les fonctions commerciales maritimes traditionnelles de Venise, avançons dans le temps, sont peu à peu laminées.
Elles sont laminées à partir de la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire après une victoire. On chante victoire et la victoire se retourne contre ses vainqueurs, c'est la bataille de Lépante. Et la bataille de Lépante, suivie d'une peste catastrophique pour Venise, signe pratiquement le déclin total des activités commerciales de la ville et le transfert de ses activités vers Lisbonne, Anvers et Amsterdam.
Comment font les patriciens, on peut peut-être utiliser le terme maintenant, à Venise? C'est eux qui vont piloter la reconversion vers un commerce plus terrestre et puis surtout vers l'occupation de la terre ferme, l'agriculture et l'industrie.
Les patriciens, le mot apparaît alors et prend une extension inaccoutumée, les patriciens reconvertissent en effet leurs activités. Mais le font les patriciens riches, c'est-à-dire ceux qui disposent de capitaux dégagés par le commerce maritime qui va péricliter, et ils peuvent acheter les domaines confisqués par la seigneurie de Venise sur les seigneuries vaincues de la terre ferme à Padoue, à Vicence, à Vérone, à Trévise, etc., à Brescia.
C'est le temps des villas, et puis quand vient le 18e, c'est le temps des mémoires de Casanova. En voici un écho, si vous le voulez bien, Jean-Claude Hoquet. Donc dorénavant, la fonction de Venise et surtout régionale, ce qui n'empêche pas que les traditionnels adversaires génois, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, se retrouvent sur la route des Vénitiens, mais avec des ambitions relativement modestes, vous allez l'entendre.
À qui appartient ce raffio ?
À nous, mon brave, et nous sommes Pietro Paprizio, commerçant génois.
Qu'avez-vous comme cargaison ?
Du lard.
Du lard ?
Le meilleur du monde. Dites-lui tout, Fulvio.
Oui, monsieur. Rien du bon gras.
Vous n'avez jamais entendu parler de mon lard? Il va falloir y remédier sans tarder. Je veux qu'on placarde cette affiche à tous les coins de rue, ou plutôt, à tous les coins de canaux. Et demain, c'est compris?
Veuillez signer. Signor Paprizio?
À votre service, signor.
C'est moi, monsieur, qui suis au vôtre. La famille de votre fiancé m'envoie vous accueillir et vous indiquer où se trouve votre palazzo.
Mon palazzo? Mais j'ai réservé une suite à l'hôtel Grifazzi.
Oh, on ne vous a rien dit? Le Grifazzi est fermé.
Ah oui? Pourquoi?
Lupo.
Il y a des remontées d'humidité.
Des remontées d'humidité, ouais. C'est ça.
Un palazzo, là?
Le signor Paprizio de Gênes avec la signora Bruni.
Soyez les bienvenus.
Le signor Dandolo et la signora.
Bienvenue.
Signor Paprizio.
Signora Bruni.
Il va falloir que nous vous présentions à toutes nos connaissances.
Oui, cela risque d'être intéressant.
Voulez-vous me faire l'honneur, signora?
Oui.
Je suis libre.
Je vous en prie.
Regardez-nous.
Lord et Lady Devonshire.
Soyez les bienvenus.
Ah, enfin un invité qui a fait un effort. Pardonnez-moi, je disais enfin un invité qui a fait un effort. Ça, c'est vraiment de la pourpre. Ce n'est pas vénitien, hein? Je me trompe? Attendez, ça vient de Londres? Paris? Non, Rome. Rome, c'est presque la pourpre papale. C'est très... Oh, ça me rappelle quelque chose. Attendez, surtout ne me dites rien.
Monseigneur Pucci.
Monseigneur Pucci.
Ah oui, ça y est. J'ai su que vous étiez à Venise. Vous venez danser ?
Alors évidemment, une fonction surtout régionale, du commerce peu remarquable, du lard. La pourpre ne vient même plus de Venise. Tout de même, ça reste une cité monde où la boyeur annonce un lord anglais, un cardinal venu de loin, et puis pourquoi pas des aristocrates français.
Ah mais oui, elle fait partie du Grand Tour. Et le Grand Tour, c'est le tour que s'imposent les aristocrates européens, et en particulier une autre catégorie, les artistes. Les artistes qui vont s'inspirer aux sources de l'art, c'est-à-dire en Italie. Et cela vaut pour la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique. Enfin, tous les arts attirent l'Italie et Venise. Venise a été un des plus grands centres de l'art au monde.
Venise au XVIIIe se demande un peu comme la Grèce aujourd'hui, la France demain. Mais on n'a plus rien à vendre, mais il nous reste à vendre notre fonction de musée. En 1797, la Sérénissime va tomber comme un fruit mûr, mais en le conservant dans l'alcool du souvenir, ça garde un goût délicieux. Vous errez, vous aussi, de palais vide en palais vide quand vous êtes à Venise. Vous êtes tout le temps à Venise, Jean-Claude.
Mais je profite de la Biennale d'art moderne, oui, pour aller à Venise et entrer dans ces palais vides. Ils sont vides, mais ils sont fermés. Et pendant la Biennale, eh bien, ils sont ouverts parce qu'ils servent de lieu d'exposition, tous pratiquement.
Henri de Régnier racontait qu'il se présentait quotidiennement dans un palais abandonné comme un acheteur. Mais évidemment, il n'avait pas un sous-vaillant. Alors la concierge commençait à se demander pourquoi il venait tous les jours. Mais il y a de riches propriétaires, ainsi Carlos de Bestegui au palais Labia, qui, 7 ans avant que vous n'arriviez à Venise, c'était en 1951, donnait une fête qui ne plaisait pas à l'Osservatore Romano.
Venise a connu le bal le plus somptueux qui se soit déroulé au bord du Grand Canal depuis les Doges. Monsieur Bestegui, que ne doivent pas inquiéter outre mesure les problèmes de minimum vital, a dépensé la bagatelle de 75 millions pour permettre à ses invités de se distraire quelques heures à sa pendaison de crémaillère. Au lendemain de cette petite fête de famille, l'organe du Vatican s'est élevé avec énergie contre ses dépenses pour des choses stupides et ridicules, alors que partout ailleurs en Italie, des gens ont faim.
Et 13 ans après, en 1964...
Mais les roses sont fanées et les gondoles se balancent tristement au clapotis du Canareggio. Car le palais Labia vient d'être vendu pour la bagatelle de 350 millions de lire. Et une grande partie des trésors qu'il contenait ont été scrutés à la loupe par une armée d'experts avant d'être dispersés au vent des enchères. Aujourd'hui, les Bestegui eux-mêmes ne peuvent plus s'offrir le luxe de posséder des Versailles aux quatre coins du monde. Et le marteau du commissaire briseur français Maurice Reims a morcelé ce trésor accumulé à force de patience, de goût et d'argent.
Et maintenant, c'est François Pinault, ce qui fait plaisir à notre réalisatrice Marie Guérin, parce que du coup, le drapeau breton flotte sur la Salutée.
Sur les magasins de la douane à la Salutée.
Oui, faisant la différence. Oui, c'est vrai. Oui. Vous avez vu ce renouvellement de la classe dominante?
Mais y a-t-il encore une classe dominante à Venise? Je pense que la ville est une ville qui reste riche. Mais l'entretien des palais est véritablement hors de prix. La plupart des grands pays prennent en charge un ou deux monuments et il y a comme ça constamment des restaurations. Mais il y a d'autres causes d'ailleurs à cette crise de Venise. Il y a un tourisme de masse.
Attendez,
submerge la ville.
Je vous arrête, vous parlez comme Régis Debray, vous enlevez ces visiteurs à Naples, la ville reste telle qu'elle. Mais alors, si on enlève ces visiteurs à Venise, elle s'effondre, elle perd son texte, comme une vedette qu'on obligerait à jouer devant un parterre vide.
Mais le tourisme de masse, c'est un tourisme d'excursion. C'est une invasion.
Vous n'êtes pas un paradoxe près, Jean-Claude Hoquet. Alors, vous participez à un numéro de Géro Histoire sur Venise, ça ne fait de mal à personne. Vous publiez en même temps Belles Lettres, 2 volumes d'un guide culturel pour les touristes. Venise au Moyen-Âge, c'est sur 1500. Et puis après, Venise dans les époques suivantes, de la Renaissance à nos jours. On n'a pas honte. Merci à vous, à la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot.